message directement inspiré par toi depuis le livre saint, qu'une onction spéciale descende sur toute personne qui écoute ce message en cet instant. Je le demande au nom de Jésus. Amen. Amen. Waouh, vous êtes magnifiques. Et en fait, dès qu'on est, pasteur, quand on écoute la louange, on sait si la prédication va être bonne derrière. Parce que si déjà dans la louange, vous avez envie de louer, c'est que vos cœurs sont déjà en train d'être connectés avec le ciel. Et du coup, ça va plus vite après pour taper fort. Donc, je m'attends à des bonnes choses. J'ai enlevé la veste d'ailleurs parce que ça va taper fort. Allez, on est parti ensemble. Deuxième livre des Rois, chapitre 18. Certains étaient peut-être là la semaine dernière. J'espère que vous étiez là. La semaine dernière, à 14h, on a étudié un passage dans le deuxième livre des Rois qui nous parlait des tactiques du diable. La semaine dernière, tactique du diable. Et c'est vraiment un malin. C'est vraiment le malin. Il utilise les mêmes armes. Il fait juste un relooking. Je ne sais pas s'il y a une Christiana qui relook les armes du diable, s'il se fait un relooking, mais c'est toujours les mêmes choses. Christina, c'est ça. Tout de suite, il y a des filles qui me corrigent. Attention. Oh, parle pas de mon modèle comme ça. Bon, d'accord, ok. Et Christina qui vont relooker les armes du diable, mais c'est toujours un peu pareil. C'est comme un virus, il arrive à s'adapter en fonction de ton âge, si tu es un homme ou si tu es une femme, en fonction de tes expériences de vie. Il modifie légèrement le programme qui t'attaque, mais globalement, il y a toujours un trio de l'enfer. Il envoie face à toi trois ennemis pour jouer sur tes peurs, pour jouer sur le doute entre toi et ta confiance en Dieu, et enfin, pour te proposer un deal de tout ce que Dieu n'arrive pas à t'apporter. Ça marche très bien depuis la nuit des temps, mais sauf que certains chrétiens ou enfants de chrétiens se croient plus malins que le malin. Donc ils se disent, ah, Satan, j'ai vu et tout ça, mais je serai plus fort que toi. Ils se font avoir. Ça va être les beaux jours dans quelques temps. Vous allez voir les moustiques qui vont faire leur apparition. Les moustiques ont des cerveaux de moustiques. C'est pas très malin, c'est juste des moustiques. Mais je dis ça parce que pour moi, c'est une très claire illustration de ce que des chrétiens ou des enfants de chrétiens essayent de faire avec le malin, avec le péché. Vous savez que tout ce qui vient de l'adversaire, Satan, Lucifer, celui qui porte la lumière, ça brille. Alors, je vous invite à faire une petite expérience très simple. Dans quelques jours, vous allez mettre un lampadaire halogène. Si vous avez une petite terrasse ou un jardin, vous installez dessous et vous comptez les secondes. S'il fait nuit à côté, vous mettez un beau lampadaire halogène qui chauffe bien et qui éclaire bien. Et là, vous allez voir quelques moustiques qui vont se dire: oh là là, c'est trop bien ça. Il fait nuit et il fait froid, mais là, il y a de la lumière et il fait chaud. Alors, on va être tout près de la lumière et on va avoir chaud. Parce que les moustiques sont frustrés. Pourtant, Dieu leur a donné plein de joie et plein de chaleur pendant la journée. Mais en tant que moustiques, ils en veulent toujours plus. Et ils se disent, tiens, si en plus on peut faire un petit deal avec celui qui porte la lumière, Lucifer, on va s'approcher du chaud. Et on va prendre tout ce qu'il y a de meilleur, mais on ne va pas être aussi bête que la tata. Parce que, en fait, tous les moustiques ont une tata, une petite sœur, un cousin, enfin quelqu'un qui a voulu jouer trop près avec la lumière, vous voyez. Et en fait, lorsque Léa, la tata, elle est allée tout près de la lumière, elle faisait bzzz, poum. Ah ben non, Léa, c'est moche, t'es morte. Oui, parce qu'elle a cru qu'elle allait avoir la chaleur et la lumière d'encore plus près. Et la semaine dernière, on a vu combien le diable envoyait ses émissaires pour dire « Viens, j'ai des choses pour toi que l'Éternel n'a pas pourvues, des choses dont l'Éternel n'a pas répondu à tes prières. Alors que moi, le prince de ce monde, je peux te donner une lumière, alors que toi, chrétienne, tu vis dans la nuit. » Le roi d'Assyrie envoya à Ézéchias depuis Lachish, et le verset 17. Pardon, le verset 18. Non, 17 et 18, c'est ça. Le roi envoya, vous lisez avec moi, le roi d'Assyrie envoya de Lachish à Jérusalem vers le roi Ézéchias. Tartan, Rabsaris et Rabshaké avec une puissante armée. Tartan, Rabsaris et Rabshaké avec une puissante armée. Ça, c'est les tactiques du diable. Tartan, Rabsaris et Rabshaké. Je ne vais pas développer, peut-être certains ont déjà une explication de ça, peut-être j'ai pu travailler avec vous sur ces thèmes-là dans le passé, mais je voudrais juste vous le redire. Tartan, Rabsaris, Rabshaké. On va faire un petit peu de... Tout le monde essaye. Tartan, Rabsaris, Rabshaké. C'est qui, eux? Alors, vous avez peut-être des versions français courants ou des versions semeurs. Ils vous ont donné une interprétation possible. Du coup, moi, j'ai fait un petit peu des recherches sur dans toutes les différentes Bibles et qu'est-ce que ça dit, donc, notamment en araméen. Tartan, c'est le général en chef de l'armée. D'ailleurs, ça, voilà, je ne sais pas si vous avez vu le film 300 ou chose du genre, ou la suite, je ne sais plus comment ça s'appelle. Ça, c'est le chef de l'Empire perse. Ça ressemble à peu près, d'après le film, hein, à ces immortels, ces guerriers perses. Là, on est quelques années avant. Au temps de Tartan, c'est au niveau de l'Assyrie, donc la capitale, c'est Ninive, c'est un petit peu plus tôt, mais c'est un peu le même genre de guerrier. Tartan, c'est une assonance avec le mot qui est très à la mode aujourd'hui, puisqu'on parle de Crimée. Vous avez entendu parler des Tartares de Crimée? C'est quoi? C'est un titre, Tartan. Tartan, les Tartares, c'était un peuple de nomades qui était connu pour ne pas faire d'agriculture et pour vivre des razzias. Concrètement, ils arrivaient dans un village, ils violaient les femmes, ils embarquaient les enfants comme esclaves, ils tuaient les hommes, c'était réglé. Ils prenaient la nourriture, ils partaient. C'est comme ça que les nomades survivaient, par le pillage et par le massacre. Donc, le roi d'Assyrie, qui est un grand pragmatique, le malin, le méchant, il envoie à Jérusalem, en premier émissaire, Tartan. Et il dit, je vais leur imposer un niveau de violence et de malheur tel qu'ils vont avoir peur, et la peur va les faire négocier avec moi. Et ça va marcher. Parce que vous lisez ce qu'on avait étudié la semaine dernière, mais je vous le dis en quelques mots. Ézéchias va tellement avoir peur de voir toutes ces villes détruites les unes après les autres, quand il va voir que Bethel est en feu, quand il va voir que Hébron est rasé, il se dit, Dieu, tu es en train de me lâcher, moi je suis le roi, Ézéchias, je suis fidèle. Il est dit au verset 5 qu'il n'y avait pas eu un roi aussi fidèle à Dieu en Israël, ni avant, ni après lui. Ézéchias, c'est un roi selon le cœur de Dieu, comme toi tu es une femme selon le cœur de Dieu, comme toi cet après-midi tu es un homme selon le cœur de Dieu. Et tu te dis, mais Dieu, je ne comprends pas, j'ai tout bien fait, j'ai suivi tes principes, je ne suis pas parfait, mais bon, j'ai fait tout ce que je pouvais. Pourquoi j'ai autant de malheur? Et tu vois en face de toi quelqu'un de violent, d'impassible qui s'appelle Tartan, qui massacre tes villes les unes après les autres. Tu vois peut-être tes enfants qui s'éloignent de Dieu. Tu vois peut-être ton job que tu es en train de perdre. Tu as peut-être son couple qui est en train de partir et d'être délabré. Tu dis, Seigneur, la peur peut t'amener des fois à négocier. Et c'est ce qui va se passer. Je n'ai pas le temps de développer, mais il va faire une erreur grave, Ézéchias. Il aime Dieu tout son cœur, mais il va aller chercher dans la maison de Dieu parce que Tartan lui impose 10 tonnes d'argent et une tonne d'or d'impôt. Il va céder et Ézéchias va faire un chèque et il va signer avec le diable. Sauf que le diable n'en a jamais assez. Une fois que tu as donné ton corps, parce qu'en gros c'est ça qu'il te demande, hein, donne ce que tu as de plus précieux. Donne-moi ton intégrité. Il n'en a jamais assez. Et il va prendre, il va te salir, il va te détruire et il va dire, maintenant, qu'est-ce que tu as à me proposer? Tartan, la violence. Peut-être certains d'entre vous ont été victimes d'abus quand ils étaient plus jeunes. Le diable se régale de ça. Peut-être certains ont vu des drames dans votre famille. Vous savez, Tartan organisait des génocides. Donc, que des enfants de Dieu souffrent, pour lui, c'est juste normal. C'est une des tactiques les plus classiques du diable. quand tu apprends une nouvelle qui n'est pas bonne avec des résultats médicaux qui sont catastrophiques, tu dis, Seigneur, est-ce que tu es en train de me lâcher? Et des fois, tu peux avoir tendance à négocier avec l'enfer en disant, Dieu, tu ne pourvois pas mes besoins. Est-ce que je dois négocier? Tartan te fera peur. Deuxième personnage, Rab Saris. J'ai mis l'île de la tentation, mais parce que je n'avais pas trouvé d'image meilleure, et puis c'était un peu difficile de trouver des images qu'on puisse afficher dans une église à ce sujet. Donc je préfère l'écrire que de le montrer en image, parce que j'ai peur d'installer Rab Saris dans l'église autrement. Vous me comprenez. Rab Saris, c'est le chef des eunuques. Concrètement, c'est celui qui, lorsqu'il allait dans les campagnes d'Assyrie ou qu'il avait des esclaves, il récupérait les femmes les plus belles, les enlevait à leurs parents, les amenait dans le harem du roi pour satisfaire les orgies et les plaisirs sexuels du roi d'Assyrie. Rab Saris, celui qui s'allie. Je me dis, c'est quand même bizarre, le diable. Enfin, qu'il envoie un général en chef, un tartan en face des enfants de Dieu, je comprends. Mais qu'est-ce qu'il va envoyer un chef des eunuques? Les chefs des eunuques, c'était planqué normalement. Enfin, je vais dire, en général, ça se dit pas. Regardez l'histoire d'ESK, Dodo la Saumure et je sais pas qui, là. Ils essayent de pas trop être connus, quand même. Ben, le diable, lui, il assume. Ça fait partie de ses stratégies. Et il envoie quelqu'un. Vous avez lu l'histoire de Balaam dans la Bible. Qu'est-ce que Balaam a fait? Lorsque le roi, le mauvais roi, le roi de Moab dit « Je veux détruire les enfants de Dieu. Je vais leur mettre une tartine, je vais les massacrer. On va envoyer le glaive, on va envoyer l'épée, on va envoyer les lances, les javelots, on va les planter. » Il dit en gros « Je vais leur envoyer de la violence, je vais leur envoyer mon tartan. » Et Balaam lui dit « Ça ne va pas le faire. » Devant une femme qui prie, devant un homme qui prie, qui veut plaire à son Dieu, des fois, tu as beau être sur un lit d'hôpital, tu continues à louer Dieu. Ah ! Tartan ne sert à rien. Alors il se dit, j'ai mieux. C'est plus sournois, c'est plus subtil. Je vais lui envoyer un Rab Saris. Quelqu'un qui lui dit, ta vie sexuelle, franchement, c'est nul. Regarde. Dans le monde, le roi de ce monde, lui, il propose des choses à ceux qui sont frustrés. Et en fait, Balaam va dire au roi de Moab, envoie tes femmes, envoie des femmes dans le camp pour coucher avec les Israélites. Militairement, c'est nul. C'est juste nul. Les femmes, elles vont arriver avec des bikinis, pas avec des sabres. Quel est l'intérêt de faire une armée de femmes en bikini? En fait, c'est parce que Satan sait que si tu résistes à Tartan, tu vas peut-être pas te méfier de Rab Saris. Parce qu'il est mignonne quand même, arrête! Et puis bon, franchement, dans le désert, c'est pas drôle tous les jours. Hein. Là, t'as des déesses en bikini qui arrivent. Tu te demandes presque, Seigneur, en fait, tu voulais juste mettre un peu de fun dans ma vie. C'est pour ça que ta collègue, elle te fait du rentre-dedans maintenant depuis plusieurs mois. Et toi, tu te dis, mais c'est fou le succès que j'ai chez les non-chrétiens, alors que les chrétiens, ils n'en ont rien à faire de moi. Vous avez vu que les chrétiennes, vous avez beaucoup plus de succès parmi les gens de ce monde? Non, mais c'est vrai aussi pour les frères. Hein. Les chrétiennes à l'église, c'est toutes des saintes. Non, non, non. Alors que ta collègue, elle se gêne pas. Et donc, vous voyez, Rab Saris, pourquoi? C'est parce qu'il sait que s'il peut toucher à ton temple, ton corps est le temple du Saint-Esprit, et aller avec toi suffisamment loin pour te salir, du coup, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, en fait, il n'a même pas besoin de te tuer, tu te tues tout seul. Il se dit, allez, je ne vais pas la briser par la maladie, il suffit que je la fasse pécher, que je le fasse pécher pour que lui-même se disent, je me suis souillé, Dieu est contre moi, ça ne vaut plus la peine d'aller à l'église dimanche, ça devient douloureux d'aller à l'église, ça devient douloureux de lire ta Bible, tu n'as plus envie de prier, et toi-même, tu te suicides spirituellement parce que tu dis, je me suis sali, je n'ai plus le droit. C'est exactement ce qu'a fait Balaam. Balaam dit, si tu les fais pécher, ils vont culpabiliser, ils vont se séparer de Dieu, et tu pourras les détruire après. Et puis pour terminer, Rabshakeh, je ne vais pas développer plus sur les tactiques du diable parce que je veux aller vraiment parler des tactiques de Dieu. Rabshakeh, le grand échanson, il me faudrait juste une voiture bien tunée avec des grands haut-parleurs, des woofers, et que vous ayez à peu près une idée de ce que c'est que Rabshakeh. Rabshakeh, quand il vient, c'est le jeune du quartier qui vient avec les pleins gaz, qui te donne envie de danser alors que tu es encore à ton balcon. Pourquoi ? Rabshakeh, c'est le grand échanson. Ça aussi, c'est bizarre d'envoyer un grand échanson en face d'une ville pour l'assiéger. Le grand échanson, celui qui organise la fête. Il n'y a pas d'ambiance dans l'église. Moi, dans le monde, je vous mets de la vraie teuf. Vous êtes que des mous. Vous êtes en train de crever. Regardez ce que dit Rabshakeh. Je suis en train de faire la paraphrase du texte. Hein. Vous êtes en train de crever. Vous mangez des horreurs. Vous n'avez plus d'eau. Vous n'avez plus rien. Vous êtes arrivé au niveau de manger des rats. Eh bien, moi, le roi de ce monde, moi, l'émissaire du grand Satan, je vous propose pour chacun d'entre vous une vigne, un figuier. Je vous propose un puits. Vous allez chercher de l'eau, mais arrêtez de vous prendre la tête avec vos histoires de bon Dieu. Moi, je vous propose du fun tout de suite. Et là, en appuyant sur tes manques, on va appeler l'histoire des manques, on a tous une lettre dans laquelle on dit « Dieu, pourquoi t'as oublié ça ?» Financièrement, ça va. Mes parents m'aiment. J'aime bien mon église. Je m'entends bien avec toi. J'en ai marre d'être seul. Mais je suis très heureux des amis que tu m'as... Il suffit qu'il y ait une lettre qui manque. Et il va te dire, là, ça va pas. Dieu ne pourvoit pas tes besoins. Et du coup, là-dessus, il appuie où ça fait mal. Verset 17. Tartan, Rabsaris et Rabshakeh, avec une puissante armée, arrivèrent à Jérusalem. Une fois montés et arrivés, ils s'arrêtèrent. Stop. Vous savez pourquoi ils s'arrêtent ? Parce qu'il y a une muraille. Ils s'arrêtent parce qu'il y a une muraille. Une muraille que Dieu a permis qu'il soit construite et qui a été construite par David. La muraille de la ville. Vous savez que votre corps est le temple du Saint-Esprit. Il n'y a qu'un seul qui a les clés, c'est vous. Il y a une muraille dans laquelle Satan ne peut pas rentrer. Il peut te faire pécher, mais c'est à toi de lui ouvrir la porte. Mais Satan ne peut pas rentrer dans le cœur d'un chrétien comme ça si tu ne le laisses pas autoriser. Chacun a la possibilité de dire non face au tentateur. Chacun a la possibilité de dire non face à la souffrance. Chacun a la possibilité de dire non face à l'épreuve. C'est très dur, je sais que c'est très dur. Mais à toute épreuve, il vous a donné la capacité d'en sortir. Jésus a été tenté de la même façon que vous. Ils s'arrêtèrent. Tactique de Dieu. Allez, on va prendre juste un verset, puis tactique de Dieu. Le verset d'après. Vous avez envie de résister au diable ? Vous avez envie de résister au diable ? Vous allez voir Tartan arriver, ça fait mal. Lui vient avec le bazooka, mais vous le voyez venir de loin. C'est la souffrance et toutes les choses horribles qui peuvent casser votre vie. Tartan, il vous met la peur, mais il ne peut pas aller plus loin. Vous allez voir arriver un jour un Rabsaris, il va essayer de vous salir moralement. Vous savez pas quoi ? Jésus pardonne même vos péchés, tous les péchés, même vos saletés. Le sang de Jésus efface toutes les fois où vous avez couché avec n'importe qui, pour n'importe quelle raison. Le sang de Jésus efface les choses que tu as regardées à la télé, que tu as regardées sur Internet. Le sang de Jésus efface. Rabsaris, on peut le virer. Rabshakeh, on peut le virer. Le grand échanson qui me dit que ma vie n'a pas de fun et que Dieu ne pourvoit pas mes besoins. Je peux lui dire si. L'Éternel a écrit dans son livre, car je connais les projets que j'ai pour ton cœur, des projets de paix, non de malheur, afin de te donner un avenir, une espérance. Ils appelèrent le roi. Regardez ce qu'il faut répondre. Allez, soyons intelligents, il y a trois tactiques à prendre. Le chef du palais royal, Eliakim. Le fils d'Ilkija. Ilkija, c'est un grand homme de Dieu. Il envoie donc Eliakim. Se rendit avec... Non, lisez avec moi, sinon je vais le faire tout seul cet après-midi. Shepna. le secrétaire, l'archiviste Joash, fils d'Azaph. Oh, bah dis donc, je comprends qu'avec ça, ils vont se prendre une tartine. Non, non. En fait, les mêmes tactiques de Dieu existent de génération en génération, comme Jésus a répondu au diable. La première tactique, envoie un Éliakim. Y a-t-il des Éliakim, des chefs de la maison du roi en cet après-midi, ou toi qui écoutes ce message, y a-t-il des Éliakim, des personnes qui disent « Je cherche en premier à plaire au roi. » Éliakim, celui qui prenait soin du palais du roi, celui qui prenait soin. Y a-t-il des personnes qui prennent soin du palais du roi aujourd'hui? Qui mettent en premier les ordres du roi? Oh, je ne parle pas du roi de ce monde, je parle du grand roi qui est dans le ciel. Y a-t-il des femmes dans ce lieu qui disent « La maison de Dieu est une priorité pour ma vie. Je m'occuperai. » Oh, je me rappelle d'un garçon qui, en 1998, alors qu'il avait 18 ans, était sur une plage à Porzguen en Bretagne. Il y en a qui s'avouent, c'est pas grave, bon, vous allez voir. Et parce qu'il voyait tous ses potes en train de bécoter les filles sur la plage, il était furieux. C'était moi. Et je voyais mes amis là, qui étaient avec leurs copines là. Et moi j'étais là, Seigneur, enlève la haine dans mon cœur. Donne-moi des sentiments chrétiens. Et j'étais seul sur mon rocher parce que je ne voulais pas participer sur la plage. Ça m'était trop... En plus, je ne m'assumais pas trop bien physiquement, tout ça. Bref, il y avait plein d'autres problèmes. Sur la plage, c'est assez difficile. Bon, c'est dans la tête, je sais, mais c'est quand même... Voilà, chacun, il y a des filles ici qui peuvent comprendre ça aussi. On a tous des blocages. Bon, bref. Et j'étais là sur mon rocher tout seul. Et je vois très bien. En Bretagne, il y a un truc qui est en abondance, c'est des galets. Vous voyez, des rochers en Bretagne, il y en a tout le temps, partout. Donc, je prends mon galet et je dis, Seigneur... Non, j'allais pas me fracasser avec le galet. J'allais pas non plus les lapider. J'avais quand même compris que Dieu c'est grâce. Mais j'ai pris mon galet. Et plutôt que m'énerver face à mon manque et à mes frustrations, j'ai pris un autre caillou et j'ai commencé à dire, j'ai écrit sur ce caillou, Dieu, je m'occuperai de tes affaires et tu t'occuperas des miennes. Quand j'ai écrit ce caillou, j'en pouvais plus d'être seul et je ne savais pas que j'allais en prendre encore pour 8 ans derrière. Mais quand en 2006, Dieu m'a donné ma chérie, ma Nathalie, j'ai de la chance, je sais que certains attendent encore que Dieu vous bénisse, mais j'ai pris ma Nathalie et j'ai dit, Nathalie, il y a une plage qu'on doit aller voir. Je sais, certains me jugent, mais eh oui, je suis un romantique fini, moi. Et je suis allé sur la plage, et là, devant le ciel et l'enfer, j'ai embrassé ma femme. Et là, je me suis dit, je vais rechercher le caillou. Il n'y avait plus de caillou. J'ai vu, j'avais caché dans un petit creux de la falaise s'était effondrée. Le caillou était parti à la mer, mais Dieu avait exaucé ma prière. Dieu, je m'occuperai de tes affaires et tu t'occuperas des miennes. Est-ce qu'il y a des Éliakim qui sont prêts à dire, Seigneur, aujourd'hui je vois rien de ce que tu as prévu pour moi, mais il y a une priorité, c'est de faire ta volonté. Éliakim, c'est quelqu'un qui écoute les commandements du roi, parce que ça sert à rien, et de les respecter, ça sert à rien d'être proche du roi si vous écoutez pas. Vous savez qu'il y a des règles que Dieu vous donne, des principes. Allez, je vais même oser un principe, parce que des fois dans les commandements, il y a des commandements faciles, hein. Il y a des commandements faciles. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de toute ton âme, toute ta force, toute ta pensée. À dire et à faire, c'est facile. Après, il y a un autre commandement qui est un peu moins drôle. C'est quand il est écrit dans le prophète Malachie, et vous apporterez à ma maison un dixième de vos revenus, etc. Et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux. Oh, c'est beaucoup, 10% haut. Je suis assez libre parce que je ne parle jamais de la dîme. Je vous mets au défi de trouver le nombre de prédications en pourcentage où je pars de la dîme. Allez dans certaines églises à côté, c'est pas qu'il n'y a pas une prédication sur la dîme, c'est que tous les dimanches, des fois le temps sur la dîme est plus important que le temps sur la prédication. Moi, je ne le fais pas, donc je me sens libre de vous le dire. Mais je voudrais partager quelque chose que j'ai sur mon cœur. J'en ai marre des gourous et des truands qui sèchent, qui assèchent financièrement les chrétiens crédules en leur mettant comme une pression, en leur disant « Si tu donnes pas, tu seras maudit. Si tu donnes pas, ça va t'arriver. » Ils vont faire 4 fois, 5 fois insister. Nous, à Créteil, et je suis très fier de cet état d'esprit, je suis très fier de l'état d'esprit de l'Église, c'est qu'on a dit « Ça doit venir du cœur. » Ça ne sert à rien de vous mettre une pression et d'insister lourdement pour vous faire culpabiliser. Je crois que quelqu'un qui donne son cœur au Seigneur et qui dit « Seigneur, ça fait partie des commandements de Dieu. » Je suis juste fier de le faire. Maintenant, si après des années, tu ne le fais pas, je suis juste triste. Parce que ça donne comme argument que moi, je suis en face de pasteurs assez gourous et qui aiment pas mal l'argent. Ils me disent « Yvan, t'as vu dans ton église ?» Eh bien, tu les laisses libres. Eh bien, est-ce qu'ils donnent ? Et je dis « Oui, il y en a qui donnent. » Mais une personne sur 3. Ah, tu vois, nous on leur met la pression et ça marche. Et moi je suis fâché parce que je me dis, c'est pas normal. Mais en même temps, c'est pas pour autant que je vais faire comme eux. Mais je vous mets juste sur votre cœur. Puisque vous êtes libres, vous devriez être des modèles. Vous tous qui avez des années de conversion, vous devriez être des modèles. Et normalement, rien qu'en lisant la Bible, et que vous voyez depuis le début, depuis la Genèse, quand il donnait les premiers fruits à l'Éternel, vous devriez dire, dès que vous recevez quelque chose, vous devriez avoir cette mentalité d'un Eliakim qui dit, je servirai en premier la maison de l'Éternel. Parce que vous savez, en fin de mois, il n'y a personne qui n'a jamais assez. Hein. De toute façon. Hein. Mais Eliakim, il disait, voilà, il y a des commandements du roi, et je fais un point d'honneur à les suivre, et l'Éternel bénira mes finances. Je ne le fais pas pour ça, mais je sais une chose, c'est que l'Éternel bénira mes finances. Je ne vais pas aller plus loin, je termine sur Eliakim. Eliakim, c'est quelqu'un qui s'investissait dans la maison du roi. Je ne sais pas si elle est là, Albertine. Je ne la vois pas, Albertine. Albertine, elle m'a dit toujours, Yvan, tu avais raison quand une fois dans une prédication, tu as dit, celui qui a un service pour Dieu, il résiste mieux aux attaques du diable. C'est vrai. Ah, je ne dis pas qu'il faut avoir un service simplement pour une histoire d'attaque sur le diable, face aux attaques du diable. Mais je peux vous dire une chose. Quand quelqu'un est armé et qu'il est en poste sur la muraille, il est plus solide qu'un civil qui est en train de glandouiller dans la ville. C'est tout. C'est un principe militaire de base. Celui qui est actif et qui est sur le pont et qui est de garde, il est toujours plus prudent et ça l'aide. Parce que des fois, le fait de savoir « Ah, c'est mon tour de garde, au rapport, mon Seigneur. Ce dimanche, c'est le dimanche où je te sers. Ce dimanche, c'est là où je remets mes habits, je sais que je vais au feu, je sais que je vais pour Dieu. » Eh bien, ça m'aide. Ça m'aide. Je constate une chose, c'est que les personnes impliquées, elles tiennent mieux. Je ne sais pas si c'est parce qu'il y a une grâce supplémentaire de Dieu, mais il se passe quelque chose. Lorsque tu mets ton armure et que tu vas au combat, je pense à tous ceux qui aujourd'hui étaient au travail, je pense à ceux qui sont à la solo, ceux qui sont au café, ceux qui sont à la bienvenue. Il y en a plein qui ne voulaient pas se lever ce matin. Mais je sais une chose, c'est qu'une fois qu'ils ont fini leur service, ils se disent « Ah Seigneur, finalement, je ne voulais pas y aller, mais je suis content de d'avoir fait ça. » Alors que celui qui n'a rien fait, il revient de son culte et puis il dit « J'ai entendu ma 627e prédication. » Ouais, c'était bien, mais c'était aussi ma 627e louange. Mais bon, elle était mieux que la 626e et elle est peut-être moins bien que la 629e que j'aurai dans 2 semaines. Waouh ! J'ai vu une histoire horrible. Vous avez vu un petit bébé en Colombie, 19 kilos. Et je me dis, mais c'est horrible. Un petit bébé qui a quoi ? Il a 6 mois, 1 an ? 8 mois. 8 mois, 19 kilos. Eh bien, tu lui ressembles. Spirituellement, tu lui ressembles. Tu es un bébé qui gonfle. 600 prédications, tu gonfles. Il y a un moment où, si tu ne fais pas un peu de sport, mon gars, tu vas t'ankyloser dans l'église. Et tu reçois, tu dis, tu gobes la prédication comme ça. Pas mal aujourd'hui. Waouh. Vous savez pas quoi ? Prédication comme ça, vous en avez déjà eu, vous en aurez encore. Hein. Votre cœur, il est touché aujourd'hui peut-être. Tu sais bien, c'est bien. Mais si ça ne change rien, si ça ne met pas au boulot, Jésus n'est pas venu sur la terre pour être servi, mais pour servir. Et il a dit, faites de même. Oui, mais je ne sais pas trop que faire, il faut que Dieu me parle. Non, mais Attends, il t'a dit, fais quelque chose. Maintenant, oui, mais quoi, Seigneur? Ben, moi, tant que je n'ai pas eu une réponse de Dieu, ben, je cherche, quoi. Mais je ne peux pas rien faire. Enfin bref, je laisse ça sur mon cœur. Après, j'ai... Il y a des Eliakim dans la salle? J'espère, s'il n'y en a pas, tant pis, que Dieu vous bénisse. Un jour, il y en aura. J'espère. Shebna, faut que j'avance. Deuxième tactique. Autant le chef de la maison du roi, je comprends un peu, parce qu'on se dit, ouais, c'est normal de l'envoyer. Je me dis, waouh, si Dieu est obligé d'envoyer des secrétaires face à Tartan, c'est qu'il est mal. Eh ben non. C'est très stratégique d'envoyer un secrétaire. Est-ce qu'il y a des assistants de direction ou des anciens secrétaires dans la salle? Levez. Un, deux. Trois. Merci, 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 merci. Ok, quatre, cinq. Bon. Je prie, je dis, Seigneur, pourquoi, pour répondre au diable, il faut prendre des secrétaires? Et là, je me suis rendu compte que les secrétaires, vous êtes les premières qui rencontrent le patron et qui disent bonjour au boss le matin. Et en général, les assistantes de direction, ce sont les dernières qui disent ciao au patron le soir. Vous savez ce que ça veut dire spirituellement, regardez? Ça veut dire que chaque matin et chaque soir, en présence du roi. Le secrétaire, il est chaque matin et chaque soir en présence du roi. Tu veux tenir avec Dieu? Chaque matin et chaque soir en présence du roi. Si tu ne mets pas en face des tactiques du diable un Shebna qui dit « Wow, Dieu, ta présence est ce qu'il y a de plus cher à mon cœur. » Oh, ça ne se passe pas tout à fait comme ça. La vérité, c'est que le matin, vous vous réveillez. Réveil. Avant le Tropicana. Avant le café Maxwell ou je sais pas quoi, Java, ce que tu veux. La première chose qui doit venir sur ton cœur, c'est « Bonjour papa, toi qui es au ciel, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, ta volonté soit faite sur cette journée. » Et le soir, alors que tu as les yeux comme ça et qu'ils veulent se fermer juste avant qu'ils se ferment, « Seigneur, merci pour la journée. C'était la journée que l'Éternel a faite. » Merci pour ces personnes que j'ai rencontrées. Merci pour le fruit que j'ai pu porter. Seigneur, permets-moi de te servir encore demain. S'achève ma journée. Amen. Et là, bon, tu peux tomber, après, il n'y a pas de souci. Dormir, c'est bon. Mais commence chaque matin et chaque soir avec Shebna. Oh, je vais faire un petit test là. Pas bon, pas bon. Un, deux, trois. Oh, vous êtes nombreux, hein? 4. Je regarde s'il y a des secrétaires dans la salle. 4. 5. Il y en a peut-être un peu. 5. Ah ouais, non, mais attendez. Alors, vous êtes des génies. Voilà, je suis impressionné parce que vous êtes des génies. Vous êtes des génies parce que vous êtes capable de retenir par cœur toutes les paroles que Dieu vous a données. La preuve, c'est que quand vous venez et que vous écoutez Dieu, alors soit vous attendez vraiment à ce que Dieu ne vous parle pas, et alors je comprends que vous n'ameniez rien pour prendre des notes, parce que finalement, Dieu parle rarement en prédication. Donc vous avez bien fait de rien ramener. Mais si par hasard, vous pensez que Dieu peut vous parler par une prédication, vous êtes soit des inconscients, soit des génies. Grand silence, pour le coup, je répète, vous êtes soit des inconscients, soit des génies. Parce que si Dieu vous parle, vous avez intérêt de retenir ce que Dieu vous dit, non? Parce que de fatiguer Dieu à lui demander à ce qu'il vous parle en longueur de journée, et quand il vous parle, de même pas avoir la peine, prendre la peine de marquer ce qu'il vous dit, vous vous moquez du monde. Franchement, moi, si j'étais au ciel, et que j'avais un fils ou une fille comme vous, qui arrête pas de me dire « Papa, révèle-moi ta volonté, dis-moi quelque chose, j'en ai marre, tu parles pas !» Et que quand il te parle, « Merci papa pour cette parole, c'était cool aujourd'hui, j'ai reçu de toi, amen. » Papa, qu'est-ce que tu veux me dire? Attends, je viens de te dire un truc. T'as même pas pris la peine de noter. T'as juste été touché, t'as dit « Le message, il était pas mal. » La louange. Et tu te rappelles même plus que Dieu t'a parlé. Rassure-moi, quand Dieu donne une prophétie, tu la notes ou pas? Parce que sinon, vous êtes des génies, hein, des mémoires d'éléphants. Hein. Moi, je dois confesser humblement, il y a plein de paroles de Dieu que j'ai gâchées. Et je demande pardon à Dieu pour ça. Pour toutes les paroles que Dieu m'a données quand j'en avais vraiment besoin, où je l'ai supplié de me parler, et une fois qu'il m'a parlé, j'ai versé ma petite larme et j'ai oublié le lendemain. Et je demande pardon parce que je n'ai pas fait le travail d'un secrétaire. Moi, j'ai une maman qui m'a forcé à faire quelque chose. Waouh, des fois, heureusement qu'on a nos mamans. Hein. Elle m'a dit, Yvan, quand Dieu parle, tu prends un carnet, t'écris. Et à 11 ans, 2 ans avant que vienne un tsunami dans notre vie et que notre famille soit brisée, il y a eu une prophétie à l'église. Et ma mère m'a dit, tu la marques. Puisqu'elle était pour toi, elle était précise. Je suis revenu en disant, maman, Dieu m'a parlé. Elle me dit, ok, c'est bien, tu le marques. Parce qu'on ne sait jamais, tu es capable d'oublier. J'ai pris mon petit carnet. Rose, parce que c'était maman qui l'avait choisi, j'avoue. Et j'ai écrit, aujourd'hui, plein de fautes d'orthographe. Voici ce que dit l'Éternel. Je t'ai vu lorsque tu courais dans le bois, parce que je faisais du scoutisme et tout. Non. Et voici les projets que j'ai sur ton... J'ai tout marqué. Vous savez pas quoi ? 4 ans plus tard, alors que ma famille était brisée. Il y avait eu, 2 ans plus tard, il y avait eu un tsunami, mais vous savez, après le tsunami, tout est ravagé. Hein. Donc, 4 ans plus tard, je regarde ma vie, je dis, Seigneur, il n'y a plus de sens, il n'y a plus de but, est-ce que tu as un projet ? Et là, je retombe sur mon petit carnet rose. Et là, je regarde et je dis, oh ! L'histoire n'est pas finie. Il y a une promesse de Dieu, écrite en 91, non appliquée jusqu'à présent. Ça veut dire que Dieu a un avenir et une espérance pour moi. Encore faut-il qu'il y ait des Shebnas qui fassent un vrai boulot de secrétaire. Puis enfin, je termine sur le secrétaire. C'est bien sympa un secrétaire de direction qui dirait « Ah oui, monsieur patron, j'ai tout marqué. J'ai tout marqué ce que vous m'avez dit. C'est juste entre vous et moi. Bah, » mais c'est pas ça qu'on t'a demandé de faire. Il y a des paroles qui sont pour toi, mais il y a des paroles qui sont pour les autres. Sinon, tu fais pas un boulot de secrétaire. Vous êtes d'accord ? Paul Easterbrook, lorsqu'il est parti en Chine et qu'il a fait l'opération Pearl, où ils ont distribué des centaines de Bibles, ils sont arrivés dans un village en Chine où il raconte, il me restait plus que 2 Bibles. 2 Bibles. Et là, gros dilemme, à qui les donner ? 2 Bibles en chinois. C'est interdit, hein, absolument interdit d'avoir la Bible en chinois. Et il est arrivé devant 2 demoiselles, célibataires, moins de 25 ans, et il leur a mis un bon coup de pression, comme les pasteurs savent faire. Il leur a dit, mesdemoiselles, il me reste 2 exemplaires de la Bible, je vous les confie. Je vous demande une chose, gardez pas ça pour vous. Je veux simplement que vous transmettiez ce message. Il est parti. Et comme un pasteur qui prêche souvent, il a même oublié ce qu'il a dit. Mais 2 ans plus tard, dans un auditoire, il voit au milieu de la salle les 2 petites jeunes qu'il avait laissées, à qui il avait laissé les 2 Bibles. Et puis il va voir ces 2 Chinoises et puis il leur dit, « Mesdemoiselles, c'est à vous que j'avais donné les Bibles. Je suis content, vous êtes restées chrétiennes. » Et là, les 2 Chinoises baissent un peu la tête. Ils disent, « Mais oui. » « Mais vous en avez fait quoi ? Vous les avez, transmis le message ?»« Oui. On a créé 23 églises. » Et Paul Easterbrook s'est dit, mais c'est extraordinaire, 23 églises, des super groupes de maisons. Non. Ah, non. Des vraies églises. Comment ça ? Ben, la plus petite, elle n'a que 300 personnes. Vous savez, la puissance, elle n'est pas dans le secrétaire, elle est dans les paroles du roi. La puissance que vous avez, elle est encapsulée dans votre Bible. Hein. C'est dangereux ces trucs-là. Hein. Dieu y parle. Allez, on va se quitter. Le temps passe. Hein. Vous avez la force d'écouter un dernier ? Allez, Joash. On va se quitter avec Joash. Joash, le moins fun de tous. L'archiviste. Il y a des étudiants qui ont étudié sur Paris, là. Levez la main, là. Dénoncez-vous. 1, 2, 3, 4, 5. Ok. Moi, quand j'étais à Panthéon-Sorbonne, en face, il y a la bibliothèque Sainte-Geneviève. Hey, c'est un mouroir ce truc-là. La première chose, je suis allé deux fois. La première chose, je passe ma carte, bip. Rien que le bip de la carte, la dame a dit chut. Je dis, oh là là, on va pas s'entendre. Je dis à ma collègue qui était avec moi, je dis, allez, viens, viens, on va trouver une. Chut. Je lui dis, ils ont un problème ici ou quoi? Tous les 5 minutes, quand il y avait quelqu'un qui pipait sa carte, là, bienvenue dans une bibliothèque. Un archiviste, c'est quelqu'un qui bosse dans les endroits calmes. Tout d'un coup, me sont revenues les paroles de Jésus qui dit, lorsque tu pries, ferme ta porte. Et Dieu qui voit dans le secret, il n'est pas dit Dieu qui voit dans la pleine église où vous êtes tous à Hillsong, à Page, à machin, en train de chanter Amen, 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 Amen. Non. Dans un moment où tu es dans ta bibliothèque spirituelle. Parce que des fois, il faut prendre du recul face au présent. Et le diable est un faiseur de bibliothèque. Vous vous rappelez de Rabchaké qui est venu avec sa voiture tuning tout à l'heure? Ben, c'est l'anti-modèle bibliothèque. Les Rabchakés ne passent pas beaucoup de temps dans les bibliothèques. Mais l'enfant de Dieu, il se recueille parce que Dieu, des fois, parle dans un murmure. Il arrive que Dieu parle dans une louange où tout le monde est exalté, tout le monde est emporté. Je voudrais vous dire combien d'entre vous ont eu un message de Dieu lorsque les décibels étaient supérieurs à 100. Et ben, pas beaucoup, en fait. Parce que dans ces moments-là, on apporte notre louange, donc on parle au Seigneur. Mais des fois, ce n'est pas forcément là où Dieu nous parle le plus. C'est très important, si je ne dis pas qu'il ne faut pas de bruit, parce que, waouh, des fois, il faut que les chrétiens on se lâche et qu'on puisse adorer, parce que franchement, Dieu mérite la gloire et on a aussi le droit de mettre du son. Mais, vous voyez, quand tu écris et que tu lis des Écritures, ça ne fait pas de bruit. Et on est dans un siècle où on ne supporte pas de vivre sans iPad, sans iPod, sans du bruit, etc. Il y a un moment où il faudra que tu te poses devant Dieu. Et qui disent, waouh, Seigneur, le bruit des résultats est en train de m'étouffer. Ces résultats médicaux ne sont pas bons, ça me met une pression de fou, ça me met du bruit dans la tête, je me tais. Le bruit de mon célibat est en train de me faire exploser les oreilles. Le bruit de mon manque financier, ça me prend la tête, etc. Je me tais. Vous connaissez ce chant, si je me tais, j'entendrai la voix du bon berger. Et là, il y a quelque chose qu'un archiviste fait. Il va aller choisir dans la bibliothèque un vieux livre. Oh, j'ai le dernier petit truc que je vous dis parce que c'est trop génial. Vous savez que c'était le fils de qui, Joash? Le fils ou le petit-fils? Parce qu'en hébreu, quand on dit engendré par, ça peut faire 3 ou 4 générations. Regardez le verset 17. Verset 18. Est-ce qu'il y en a qui connaissent Asaph? Le psalmiste. Je ne sais pas si c'est papy, je ne sais pas si c'est arrière-grand-papy, je ne sais pas qui c'est, mais je sais que dans sa famille, il y avait quelqu'un qui avait pris son stylo et sur un parchemin, c'était plus sa plume d'ailleurs, et sur un parchemin, avait écrit ce que tu lis aujourd'hui quand tu lis psaume d'Asaph. Et là, tu vois des psaumes extraordinaires qui parlent de l'Éternel et ma lumière, l'Éternel et mon rocher, l'Éternel et ma forteresse. Combien de fois Asaph a vécu des choses extraordinaires au temps de David, où il croyait qu'ils allaient mourir face à Goliath, où il croyait qu'ils allaient mourir face aux Philistins, où il croyait qu'ils allaient mourir face aux Amalécites, où il croyait qu'ils allaient mourir face à... Et l'Éternel nous a secourus. Alors, la tactique de Dieu... C'est quand le vol de la tempête et de l'ennemi vient assombrir ton ciel bleu, au lieu de baisser la tête, compte les bienfaits de Dieu. Et un archiviste est quelqu'un qui va chercher dans le passé les bons trésors que l'Éternel a faits. Et il va dire, l'Éternel en 98 m'a fait du bien, l'Éternel en 2004 est venu au moment où j'avais plus envie de vivre et où j'ai demandé, Seigneur, s'il te plaît, reprends-moi. Et vous savez pas quoi? Je peux relire les paroles que Dieu... Et je me dis, mais en fait, en 2004, Dieu a répondu à ma prière. Qu'est-ce qui l'empêcherait en 2014 de répondre à ma prière? Vous voyez, vous êtes tellement dans le présent qu'on oublie combien de fois l'Éternel nous a secourus et qu'il a pourvu à nos besoins. J'ai des archivistes dans la salle ou des personnes qui sont prêtes à faire les archivistes. Celui qui retient les leçons du passé et celui qui s'appuie sur les saintes écritures. Je pense que Joash est allé voir le roi Ézéchias et dit « Ézéchias, je ne sais pas si tu es prêt à recevoir cette parole, mais au temps de mon grand-père, ils étaient dans une situation aussi catastrophique qu'aujourd'hui et l'Éternel les a secourus. Ézéchias, ne crois-tu pas que l'Éternel pourra nous secourir cette fois encore ?» Et je ne sais pas si Ézéchias a pris cette parole pour lui ou pas, mais je sais une chose, c'est que la Bible nous met la fin de l'histoire. Et la fin de l'histoire, c'est que cette nuit-là, l'ange de l'Éternel intervint dans le camp des Assyriens. Il fit périr 185 000 hommes le lendemain matin au réveil. Le camp était rempli de tous ces cadavres. Tactique de Dieu se termine par une victoire de Dieu. Les tactiques de Dieu se terminent par une victoire de Dieu. Encore faudrait-il que dans cette salle, et à toi qui écoutes ce message, il y ait ici des Eliakim, des chefs de la maison du roi qui disent « On mettra en premier les affaires de Dieu et Dieu s'occupera de mes affaires. » Qu'il y ait ici des secrétaires qui disent « Seigneur, je vais être un peu plus sérieux que ce que je suis aujourd'hui. Je vais prendre des notes, je vais faire les choses bien et je vais m'accrocher à ta parole. » Et qu'il y ait des Joash, fils d'Azaph, des archivistes qui soient capables de dire « L'Éternel nous a bénis dans le passé, l'Éternel prendra soin de nous dans le futur. » On va fermer les yeux ensemble. Seigneur, tu es Dieu. Et le dernier mot revient à l'Éternel. Alléluia. Que Dieu puisse, en cet instant, parler à ton cœur. C'est triste de voir des chrétiens prêts à donner en rançon à l'ennemi des trésors du temple. Parce que la peur, parce que le doute les tenaille tellement qu'ils sont prêts à se laisser séduire. Mais ces tactiques du diable sont mises en échec lorsque des chrétiens se lèvent et appliquent des tactiques de Dieu. Parce que la maturité vient dans le peuple de Dieu. Lorsqu'il se lève des jeunes filles qui seront des Eliakim, lorsqu'il se lève des jeunes hommes qui seront des Shebna, lorsqu'il se lève des anciens qui seront des Joash, alors l'ennemi s'enfuit. Dieu t'a parlé en cet après-midi. Il te dit, il y a des petites choses que j'aimerais que tu mettes en place. J'ai vaincu à la croix l'ennemi. Je te demande juste de ne pas gâcher cette victoire. Fais un travail d'Eliakim. Fais un travail de Shebna. Fais un travail de Joash. Je voudrais faire cet appel à toute personne dans cette salle. On arrive à la fin de ce culte, mais si Dieu t'a parlé et qu'il y a quelque chose que tu veux changer, est-ce que tu peux te lever à ta place maintenant? On se lève à sa place. Si tu sais que tu dis, voilà Seigneur, j'établis Eliakim dans ma vie. J'établis Shebna dans ma vie. J'ai trop gâché de paroles de Dieu dans le passé, qui m'auraient bien été utiles aujourd'hui.
Je te donne mon cœur. Que j'ai demandé.